Vous écoutez France Culture.
France Culture. Carnet de santé. Marina Carrère d'Encausse.
C'est la deuxième cause de décès dans le monde. Le, ou plutôt les cancers, ont fait près de 10 millions de morts en 2018, ce qui représente un décès sur 6. Et c'est la première cause de mortalité en France. Chaque année, dans notre pays, un peu plus de 400 000 nouveaux cas sont diagnostiqués, 57% chez les hommes, 43% chez les femmes. Et ces chiffres sont en augmentation, une hausse principalement due à l'augmentation et au vieillissement de la population. Mais les nouvelles ne sont pas que mauvaises. Plusieurs éléments incitent en effet, face à ces maladies qui inquiètent, à l'espoir. D'abord, de nombreux cancers pourraient être évités, et là nous avons un rôle à jouer pour protéger notre santé. Un rôle aussi pour retrouver ces cancers le plus tôt possible et donc améliorer le pronostic, et ça passe par le dépistage et la vaccination. Et puis, et cela est plus nouveau, les armes dont nous disposons face à ces maladies sont de plus en plus nombreuses, à tel point que de nombreux chercheurs parlent de véritables révolutions thérapeutiques. C'est ce qui ressort du plus grand congrès de cancérologie qui se tient chaque année à Chicago et qui vient de se terminer. Quelles sont ces innovations? Sont-elles déjà disponibles? Quels cancers sont concernés? Guérira-t-on un jour tous les cancers? Et que pouvons-nous faire dans notre quotidien pour réduire le risque de survenue de cette maladie? Les réponses, c'est tout de suite avec Stephen Le Guill. Stephen Le Guill, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être là. Vous êtes professeur en hématologie, directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, premier centre français de lutte contre le cancer. Et avant de parler aujourd'hui et demain, on va faire un petit focus sur le passé quand même pour réaliser d'où on vient. Déjà, est-ce que les cancers ont toujours existé? C'est quoi la première preuve de cancer que l'on ait?
La première preuve de cancer que l'on ait diagnostiqué, c'est chez un hominidé. Il y a 1,6 million d'années. Et là, je suis chez les humains, on a trouvé des os de dinosaures qui avaient des lésions osseuses qui étaient des lésions cancéreuses. Donc,
ça a toujours existé.
À partir du moment où il y a eu du vivant, où les cellules ont interagi avec leur environnement, où elles se sont dupliquées, divisées, avec un ADN, avec un ARN, ben derrière, vous avez forcément un risque de dérapage et donc forcément des risques de cancer. Quand il y a du vivant, malheureusement, sous la forme que l'on connaît aujourd'hui.
Alors, bien sûr, les hommes vivent moins longtemps, donc il y en avait sûrement moins à l'époque.
Forcément.
Les premiers traitements dateraient de 2000 ans avant notre ère. Des anciens hindous essayèrent de détruire les cancers avec des cataplasmes de pâte contenant de l'arsenic. Résultat, ceux qui ne mouraient pas de leur maladie mouraient empoisonnés par l'arsenic. Mais c'était déjà une tentative. Dès le Moyen-Âge, l'idée, ça a été de retirer ces tumeurs pour obtenir une guérison. Mais on ne connaissait pas cette notion d'extension de la maladie et de métastase. Quand est-ce qu'on a compris que enlever la tumeur, ça n'allait pas suffire? Quand est-ce qu'on a commencé à parler de métastase, de mieux comprendre le cancer?
Alors, se dire que le cancer pouvait aller à d'autres endroits, bon, évidemment, pas forcément appeler ça un cancer. Même Hippocrate y avait un petit peu pensé, mais on était sur des théories médicales qui ont duré jusqu'au Moyen-Âge, qu'on appelait les humeurs. Donc, la dissémination de la maladie devait être liée à un déséquilibre des humeurs du patient. En fait, on lit le mot de métastase à une dissémination d'une cellule tumorale au début du 19e siècle par un médecin français, le docteur Écormier, qui est en tout cas, on lui attribue le fait d'avoir parlé de métastase, qui en grec, vous voyez, on revient à Hippocrate, veut dire dissémination, tout simplement.
Il y a eu donc la chirurgie, puis la radiothérapie, qui consiste à irradier la tumeur pour la détruire. Et c'est Marie Curie qui en est à l'origine. Marie Curie qui a créé en 1909 ce centre que vous dirigez aujourd'hui. Les premiers résultats de ces radiothérapies, c'était quoi?
Alors, d'abord, elle l'utilise pour faire de l'imagerie sur le front, dans la guerre de 14-18. Ouais. Elle a une petite camionnette, et puis en regardant un peu où sont les fractures et les lésions. Donc, au début, ça part plutôt sur de l'imagerie. Et elle va travailler avec un pathologiste qui s'appelle Claudius Rigaud, qui, lui, est un médecin qui analyse les tissus. Et leur idée va être de faire peut-être que, justement, que ces rayons vont pouvoir traiter ces tumeurs que l'on observe sur les tissus. C'est comme ça née l'histoire de l'Institut Curie, donc d'emblée vers une histoire de thérapeutique. Ouais. Et j'invite tous ceux qui sont intéressés comme moi, comme vous, j'imagine, oui, par l'histoire de la médecine et particulièrement sur la radiothérapie, d'aller faire un tour au musée Curie, qui est à l'angle de la rue d'Ulm et de la rue Marie Curie, qui est un musée gratuit, qui fait partie de l'Institut Curie, où vous retrouverez toute cette histoire de la radiothérapie et d'irradiation, et vous verrez que le malade était peut-être irradié largement, mais le soignant ne devait pas non plus s'en sortir indemne.
C'est sûr. Il y a eu ensuite la chimiothérapie. Les premiers essais vraiment scientifiques, c'était quand?
Alors là, début du XXe siècle, Ehrlich, qui est un chimiste en fait, va être le premier à utiliser de la chimiothérapie. Alors, Par contre, ils l'utilisent pas dans le traitement du cancer. Hein. C'est pour traiter la syphilis. Mmh. Et à nouveau, vous voyez, il est encore lié avec nos collègues d'il y a 2000 ans. Il va utiliser de l'arsenic.
Ah oui.
Et mais c'est pour traiter de la syphilis. Pour traiter les cancers, c'est 1943, les essais avec des dérivés de l'hypérite, qui sont des gaz moutarde, en fait, comme on utilisait pendant la Première Guerre mondiale, où là, les premiers essais cliniques vont essayer, justement, de traiter des cancers, en l'occurrence des lymphomes, avec cette nouvelle approche chimique de synthèse.
Bon, évidemment, tous ces traitements se sont affinés, améliorés, mais ils avaient quand même pour but de supprimer les cellules cancéreuses, soit en les enlevant, soit en les brûlant, soit en les détruisant avec des médicaments. Et c'est là qu'intervient une révolution thérapeutique née, en fait, il y a une dizaine d'années, qui ne cesse de progresser. Ce qu'on a compris, c'est que, vous me direz si je dis des bêtises, c'est que le développement d'un cancer passait avant tout par la capacité des cellules tumorales à empêcher notre système de défense de s'attaquer à elles. D'où l'idée d'aller bloquer cette capacité. C'est la naissance de l'immunothérapie, est-ce que c'est ça? Et en quoi ça consiste exactement?
On peut remonter un peu plus loin dans le temps. L'immunothérapie, donc cette compréhension que le système immunitaire a un rôle à jouer dans la lutte contre le cancer, mais aussi au départ dans le fait que la cellule cancéreuse est plus développée, c'est années 70-80. Par contre, c'est plus une démarche de comprendre ce qui se passe. Les vrais progrès, si on veut mettre une date, c'est-à-dire le développement des anticorps monoclonaux, pour parler un peu médical, c'est le début, il y a presque 25 ans, on va faire simple, début des années 2000, où on va utiliser les anticorps qui vont se déposer sur les cellules cancéreuses et qui vont servir un peu de drapeau au système immunitaire. Cette cellule, elle a une anomalie avec son anticorps dessus,
il faut l'attaquer.
Et là, vous avez des cellules qu'on appelle des macrophages qui viennent goulotter ces cellules, c'est un anti-CD20 et c'est aussi une découverte française. On a droit aussi d'être content, ça a été publié par des équipes françaises dans le New England, le fameux journal. Là aussi, à nouveau, dans les lymphomes, mais montrant, et on utilise toujours la supériorité de la chimio plus l'immunothérapie.
C'est en association.
Exactement. C'est le professeur Bertrand Coiffier qui avait fait cette démonstration.
Et je parlais effectivement de 2010, les essais importants, notamment par exemple dans les mélanomes ou certains cancers du poumon. Ça a bouleversé le pronostic?
Oui, ces molécules, principalement, et on en a parlé encore à l'ASCO, qui sont ce qu'on appelle les anti-PD-1, elles vont permettre de réactiver la capacité du système immunitaire à tuer des cellules tumorales. Parce que non seulement les cellules tumorales sont capables d'échapper, de ne pas se faire reconnaître par le système immunitaire, mais elles sont capables aussi, quand elles sont reconnues, d'éteindre le système immunitaire. En fait, de lui renvoyer un signal feedback, ne me fait pas de mal.
Donc il faut le réveiller.
En fait, il faut bloquer. C'est comme si la cellule tumorale appuyait sur un interrupteur pour éteindre.
Il
faut bloquer l'interrupteur. Et c'est ce qu'on fait avec ce type de traitement qu'on appelle des anti-PD-1. Et donc, on laisse activer le système immunitaire.
Et c'est vrai que certains cancers, notamment de la peau, ces mélanomes métastasés qui avaient un pronostic épouvantable, tout d'un coup, des patients ont vu leur espérance de vie s'allonger de manière impressionnante.
Oui, tout à fait. Les mélanomes, cancer du poumon aussi, qui sont des cancers extrêmement agressifs, avec, dans certaines formes, ces développements de cette immunothérapie va considérablement prolonger la durée des réponses.
Donc ça, ce qui évolue, c'est c'était au départ pour des cancers qui étaient très évolués, avec des métastases. Effectivement, maintenant, on teste ça pour des cancers qui n'ont pas encore de métastases, c'est important. Donc plutôt, on adapte les doses, on travaille beaucoup dessus. Autre nouveauté, en fait, qui est une branche de l'immunothérapie, c'est la vaccination. On connaît bien la vaccination préventive, le tétanos, la polio, etc. Là, c'est une vaccination thérapeutique.
Vous avez tout à fait raison, la vaccination, ça rentre dans la grande famille de l'immunothérapie. Il y a plein d'axes différents dans l'immunothérapie. Donc, on connaît les vaccins préventifs, comme vous l'avez dit, mais là, ce sont des vaccins thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on va souvent les utiliser après le traitement pour continuer à entretenir, à entraîner le système immunitaire. Et c'est le même principe que pour un vaccin d'un virus, c'est de présenter à notre système immunitaire une fraction de la cellule tumorale, une partie de sa carte d'identité,
pour qu'elle apprenne à reconnaître,
exactement.
Notre système immunitaire, c'est effectivement la cible des chercheurs, très clairement. Il y a une autre technique qui s'inspire de cette idée d'agir donc sur ce système pour réduire le cancer. Alors, c'est des cellules au nom compliqué, mais vous allez nous expliquer ça, je sais simplement. Ce sont les cartes T-cells. Voilà. C'est quoi ces cellules-là?
Les cartes T-cells, en effet. Alors là, on va encore une étape plus loin dans la manipulation du système immunitaire. Il s'agit de donner une compétence que n'a pas une cellule et de la transformer. Donc on va prendre des cellules d'un patient, en général ce sont des cellules du patient, autologue, il y a des recherches pour prendre d'autres cellules, qui fait partie de son système immunitaire, qui sont des lymphocytes. Et ces lymphocytes...
On lui prélève ces cellules.
On lui prélève les cellules du patient, et on va lui amener la compétence, à travers une transfection d'un gène, de reconnaître...
C'est-à-dire transfection d'un gène.
On va amener une section d'ADN dans la cellule de lymphocytaire qui va lui permettre de coder une protéine. En gros, on va lui apprendre à reconnaître quelque chose qu'elle ne sait pas faire naturellement.
D'accord.
Et donc, cette cellule, une fois qu'on l'a prélevée, comme une prise de sang, on fait cette transfection, un OGM, hein, si on veut aussi parler dans un langage plus connu. Et après, une fois qu'on l'a un peu expandu, on va la réinjecter au patient. Et avec sa nouvelle compétence, qui est évidemment de reconnaître une partie de la cellule tumorale, elle va devenir active, elle va s'amplifier.
Elle va l'apprendre à toutes les cellules
Alors non, elle ne va pas apprendre aux autres. Elle va grandir, elle va se multiplier dans le système immunitaire.
D'accord. Ça suffit.
Et ça suffit, dans plus de la moitié des cas, ça a été développé dans des tumeurs, et c'est pas point du système immunitaire, hein, parce que le système immunitaire lui-même peut développer un cancer. Donc développé dans deux types de pathologies, qui sont les lymphomes et les leucémies aiguës. Le myélome, qui est une autre pathologie du sang. Et l'un des grands challenges actuellement, c'est de pouvoir voir si ce système CAR-T-cell peut être, de thérapie cellulaire, peut être utilisé dans des cancers solides. Et parce que c'est beaucoup dans
poumon,
les...
Tout à fait. Alors ça, c'est un peu les nouveaux traitements, nouvelles recherches, dont certaines sont déjà appliquées, bien sûr, comme l'immunothérapie. Mais il y a aussi, dans les nouveautés, le choix de la stratégie thérapeutique. Et ça, c'est très important. On découvre qu'on peut savoir si un traitement va être efficace sur un patient ou si le patient va résister à ce traitement. Ce qui est intéressant, c'est que si on le sait très tôt, ben on peut proposer autre chose et donc éviter à la fois une perte de chance et des effets secondaires inutiles. Ça a été très important au congrès justement de Chicago, à l'ASCO.
Oui, tout à fait. Et ça a fait même l'objet d'une communication et une séance plénière par une étude qui a été initiée, imaginée à l'Institut Curie, portée par le professeur François-Clément Bidard. Et la présentation était la confirmation de cette stratégie que vous venez de décrire. Les cellules tumorales, elles ont la capacité de s'adapter. Ce qu'on appelle, en langage scientifique, la plasticité de la cellule.
Elles sont intelligentes, c'est ça le problème.
Alors, je ne leur donnerai pas de l'intelligence, je dirais
Elles sont malignes.
Elles sont malignes, voilà. Elles savent échapper.
C'est ça.
Et parmi leur système d'échappement, elles vont modifier leur ADN et acquérir une compétence de résistance. Mmh. Et sous la pression du traitement, on va voir émerger une sous-population de ces cellules tumorales qui est en fait résistante au traitement qu'on donne. Et tout l'enjeu, vous venez de le dire, c'est de détecter cette variation le plus tôt possible avant d'arriver vers des métastases.
C'est
exactement.
Ça.
Pour modifier ce traitement. Mm-hmm. Et l'étude dont vous parlez, dans le cancer du sein, a comparé deux populations de patients chez lesquelles on a pu détecter l'apparition très précoce de ces mutations. La moitié des patients n'ont changé pas le traitement et l'autre moitié ont changé le traitement. Et celles à qui on a changé le traitement sur la détection précoce de ce marqueur ont une durée de réponse beaucoup plus longue. C'est ce qu'on mesure en fait, c'est un petit fragment de la cellule tumorale, ce qu'on appelle de l'ADN tumoral, qui circule. Et ce prélèvement, c'est un prélèvement sanguin qu'on appelle prélèvement liquide, mais c'est un prélèvement sanguin.
Et là, on est dans la recherche ou on est déjà dans l'application ?
On est dans le translationnel, dans cette zone entre les deux. C'est-à-dire que ce que montre l'étude, c'est que c'est faisable.
D'accord.
Et la démonstration de la faisabilité dans un essai clinique et que ça a un impact, maintenant le challenge, ça va être de se dire cette technique, cette approche, est-ce que je peux la mettre en place tous les jours dans le traitement de tous les patients qui ont ça. Ce sont des défis organisationnels, technologiques, financiers aussi, mais c'est une preuve de concept. Et si ça marche dans le cancer du sein, pourquoi ça ne marcherait pas dans d'autres cancers ?
Encore dans le même ordre d'idée, on essaie de savoir si un patient a un risque de rechute élevé. On sait que attendre la rechute, c'est quand même laisser passer beaucoup de temps et puis la maladie évolue. On pourrait essayer d'anticiper là-dessus.
Oui, là, cette technique que je vous décris est une manière d'être très tôt. Mais si on détecte de l'ADN tumoral, c'est qu'il y a déjà de la cellule tumorale. Donc, si on veut empêcher une rechute, vous pouvez avoir des traitements dits d'entretien. Donc pendant plusieurs années, une fois tous les mois.
Et des traitements très lourds ?
Non, en général, ce sont des traitements bien tolérés. Parce que
les gens, par exemple, la chimiothérapie, on leur dit on va faire un traitement d'entretien en chimiothérapie, c'est lourd souvent.
C'est lourd, exactement. Souvent, c'est une phase du traitement, mais avec une durée bien déterminée, 5, 6, 7, 6, ça va dépendre de quelle pathologie on parle. Et après, derrière, on passe sur ces phases d'entretien où l'immunothérapie est souvent très utilisée. Tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, ça va dépendre des traitements. On va entretenir ce système immunitaire et donc éviter la rechute. Et il faut aussi combiner ces approches de surveillance. Je ne pense pas qu'il existe une manière de surveiller qui va. Voilà, il faut de l'imagerie. L'ADN tumoral peut être une des techniques aussi. Et la caractérisation de la maladie au diagnostic permet aussi de classer des patients à haut risque de rechute versus des patients ou des patientes avec un risque de rechute faible et donc d'adapter cette surveillance.
Quand on vous entend parler, on comprend très bien que toutes ces nouveautés sont liées à une meilleure connaissance du mécanisme des cancers, mais aussi qu'on comprend à quel point chaque cancer est unique et à quel point il faut personnaliser chaque traitement. On en parle tout de suite.
France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos.
Première cause de mortalité dans notre pays, le cancer est l'objet d'immenses recherches qui aujourd'hui portent leurs fruits. On en parle avec le professeur Stephen Le Guill, directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie, professeur en hématologie. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin, réalisée par Thomas Jost, avec à la technique Mineta Diawara et à la vidéo Vincent René. Je le disais, avec toutes ces innovations, on ne traite plus un cancer, on traite le cancer d'un patient.
C'est tout à fait vrai, c'est surtout une tendance de plus en plus forte à mieux connaître la maladie, ce qui est un élément essentiel pour améliorer les traitements. C'est sur ce raisonnement qu'est bâti toute la philosophie de l'Institut Curie, qui est à la fois un centre de recherche fondamental, un champ translationnel et un centre de traitement. C'est vraiment essentiel, parce que sinon on peut attendre des résultats par hasard. La pénicilline a été découverte par hasard, il a fallu à l'être humain, on va dire, 2000 ans pour la trouver. On peut espérer se faire plus rapidement. Donc il faut comprendre ce que l'on cherche. Et en cherchant et en analysant de plus en plus ces cellules tumorales, on comprend, comme vous le dites, qu'il y a, on pouvait s'en douter, mais il y a des différences d'un individu à l'autre. Et même à l'intérieur d'une tumeur chez un individu, c'est une population de cellules très hétérogène. Et c'est sans doute ça une des nouveautés les plus marquantes dans ces dernières années, dans les avancées dans la recherche. C'est qu'on a souvent dit les cellules tumorales, en fait, elles sont ce qu'on dit en médecine quand on est dans les amphithéâtres, c'est les cellules monoclonales. Ce qui veut dire, en gros, elles se ressemblent toutes. Mm-hmm. C'est la même tête, vous prenez une carte d'identité, elles se ressemblent toutes, elles sont toutes pareilles, voilà. Et en fait, non. Il y a des différences qui peuvent parfois pas être visibles au diagnostic, mais ces différences, elles sont essentielles parce qu'au fur et à mesure du traitement, on va voir changer cette cellule tumorale, émerger des populations, voire apparaître des populations qu'on ne mesurait pas au début. Donc, différence d'un individu à l'autre, alors que le cancer peut être le même, mais aussi hétérogénéité au sein des cellules tumorales elles-mêmes.
Est-ce que toutes ces nouveautés vont permettre, bien sûr, d'améliorer le pronostic et l'espérance de vie des patients, mais aussi améliorer leur mieux-être, c'est-à-dire effectivement éviter des traitements, une chirurgie, une chimiothérapie qui finalement ne sont pas nécessaires ou qui ne seraient pas efficaces? C'est aussi le but?
De toutes les manières, un traitement qui serait super efficace, mais que les patients peuvent pas recevoir parce qu'ils supportent pas, par définition, c'est plus un traitement. Il faut donc pouvoir utiliser des traitements qui sont adaptés au patient, à ce qu'il peut supporter. Et un homme de 40 ans ne supportera pas la même chose qu'un homme de 80 ou une femme de 40 ans et une jeune femme de 18 ans. Donc il y a naturellement une adaptation. Et en effet, il faut pouvoir apporter des soins de support. En même temps, ça fait partie.
Les soins de support, c'est tout ce qui accompagne
ce traitement
contre le cancer.
Exactement. Ça va comprendre des traitements pour éviter les nausées, les vomissements. Ça va être des traitements pour éviter que les globules blancs descendent trop bas. Mais ça va être aussi une psychologue. Ça va être aussi une prise en charge globale et holistique. Et dans les centres de lutte contre le cancer, ce que promeut UniCancer, qui regroupe l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, comme à l'Institut Curie, ben, c'est l'accompagnement global du patient. Parce qu'un bon traitement qu'on n'arrive pas à prendre, par définition, ce n'est plus un bon traitement. Et les patients ont besoin de cette aide qui est parfois aussi sociale. Hein. C'est une rupture, un cancer, c'est difficile à vivre. Donc, pour pouvoir avoir des meilleurs résultats, il faut aussi accompagner de ce point de vue-là.
Vous parlez de ces centres anti-cancer, mais ce qu'il faut aussi dans notre pays, ces avancées sont extraordinaires, mais il faut qu'elles bénéficient à tous les patients. On sait qu'elles sont chères, on sait qu'il n'y a pas des centres de référence partout, il y a une inégalité d'accès à ces centres. C'est quand même un enjeu, ça aussi.
C'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur et qui retrace aussi et qui est une autre manière de voir les inégalités sur notre territoire. L'accès aux soins, c'est une inégalité, comme l'accès aux services publics, comme l'accès à une boulangerie. Et voilà, je décline un peu en dehors du champ de la santé, mais on va retrouver cette même disparité. Quand vous avez un centre de lutte contre le cancer à côté de chez vous, si je prends l'exemple évidemment que je connais le mieux, celui de Curie, au centre de Paris à Saint-Cloud ou à Orsay, c'est plus simple. Mais c'est aussi notre responsabilité de santé. C'est pour ça que moi, j'ai des médecins qui vont à Saint-Denis dans le 93 pour aller voir une autre population que celle que nous pouvons voir au centre de Paris. On a des médecins qui vont travailler sur d'autres zones géographiques, sur d'autres zones de Paris. Et je pense que ça, c'est aussi une des responsabilités des centres comme les nôtres, d'aller aussi à des endroits où on n'a pas un centre Curie, mais pas tout seul. quand je prends en Saint-Denis, on travaille avec le centre hospitalier de Saint-Denis, avec les gens qui sont sur le terrain tous les jours et qui connaissent. Et on dit, nous, on peut vous aider dans le cancer du sein, dans le cancer gynécologique, et on peut amener une expertise qui vient de chez nous. Et ça, ça marche très très bien.
Vous dites même qu'il faut développer des centres virtuels pour que chacun ait accès aux meilleurs spécialistes.
Je pense que il n'y aura jamais, on peut rêver, mais vous n'aurez jamais un centre de lutte contre le cancer ou un CHU dans chaque département ou chaque ville de plus de 20 000 habitants. C'est une réalité. Donc comment on fait pour avoir un avis? Comment on fait pour partager l'analyse? Et vous n'avez pas besoin toujours de vous déplacer. Il y a des moyens maintenant, les moyens de numérique, l'intelligence artificielle, les réseaux qui existent déjà doivent permettre aux patients et à leur thérapeute de proximité de pouvoir avoir ce lien. C'est facile à dire, après il faut le mettre dans le concret, parce que les médecins dans les centres de lutte, les spécialistes, ils ne sont pas forcément non plus très nombreux, ils ont déjà un agenda qui est bien occupé. Donc il y a une politique de formation, il y a une politique de déploiement régional, et la situation ne va pas être le même sur le territoire si vous êtes dans le nord de la France ou si vous êtes dans la région PACA. Ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc tout ça nécessite que les professionnels aussi se connaissent et connaissent le milieu. Donc les outils doivent aider, mais les outils ne feront pas tout. Il faudra des humains, des médecins, des infirmières pour faire le job.
Alors, on parle d'outils, parlons donc de l'intelligence artificielle, de plus en plus présente dans le monde. Quelle place elle a joué dans la prise en charge des patients atteints de cancer?
Alors, à beaucoup de niveaux. Si on commence par la prise en charge de tous les jours, c'est comment multiplier la capacité d'analyse que nous avons. Analyse d'imagerie, analyse de tissu.
Dans le cancer du sein, par exemple, ça
dans le cancer du sein, tous les prélèvements que nous faisons sont numérisés. Que ce soit cancer du sein ou autre, ils sont numérisés. Mmh. Et sur ces numérisations, c'est-à-dire sur des images, on va pouvoir avoir une intelligence artificielle qui vous dit, là, à tel endroit, il peut avoir ci ou ça. Le dernier mot sera toujours médical.
Bien sûr.
Ça, c'est essentiel de le dire. Donc ça, déjà, ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait analyser plus de paramètres que pourrait le faire un être humain à l'œil. Vous mettez ça aussi en radio. Vous pouvez après avoir une analyse plus globale. Je vais mettre toute la biologie, toute l'imagerie, toute la pathologie, tous les comptes rendus médicaux. Je vais pouvoir les analyser collectivement. Je vais vous donner un exemple aussi sur la formation. Si un médecin veut être à jour aujourd'hui en se disant « Allez, je vais lire toutes les revues scientifiques parce que je vais être le meilleur médecin et je vais être sérieux. Voilà. » Il faut qu'il lise tous les jours 5000 articles.
C'est-à-dire qu'il n'aura pas le temps de voir ses patients.
Non, il lira. Et même les 5000 articles, si vous voulez, mon avis, il n'arrivera pas à les lire. Donc au final, on a besoin aussi pour l'aide à la formation des professionnels de santé et surtout des professionnels de santé de demain. Et l'intelligence artificielle, elle va vous aider à synthétiser ces 5000 articles que vous auriez dû lire ou pas lire, parce qu'il y en a peut-être 4999 qui n'ont strictement aucun intérêt, mais ça, vous le saurez qu'à la fin. Donc, elle est là aussi, l'intelligence artificielle. Et dans la recherche, c'est pareil, analyser plus de paramètres, avoir une puissance de calcul beaucoup plus forte, c'est le booster de ce 21e siècle pour avancer.
Vous pensez qu'un jour, on saura guérir tous les cancers?
Oui. Je pense que tous les jours, un jour, on saura guérir tous les cancers. Et je pense que ce moment arrivera au 21e siècle.
En attendant, on peut agir. Et ça, c'est important, parce qu'on sait que les pronostics dépendent du stade où le cancer est diagnostiqué, sauf exception, plus un cancer est retrouvé tôt, plus le risque d'extension est faible et meilleur est le pronostic. Et c'est là que le dépistage intervient, mammographie, frottis pour les femmes, hémocultes, coloscopie pour les hommes et pour les femmes. Il y a des dépistages organisés en France, ça veut dire qu'ils sont pris en charge par la Sécurité sociale. Est-ce qu'ils sont bien suivis? Est-ce qu'on détecte bien le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer du côlon?
Pas assez. Et on le sait tous qu'en France, on n'est pas les plus bons élèves sur tout ce qui est le dépistage précoce. C'est un enjeu de politique publique, c'est un enjeu sociétal, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit plus dur que les autres.
On incite, on reçoit les courriers à tel et tel âge, on est sollicité pour le faire.
Oui, on est sollicité pour le faire, mais en même temps, on n'est pas entraîné, on n'est pas préparé à le faire. Et je pense que dans une histoire de vie, quand on est tout petit, quand on va à l'école, quand on est adolescent, il faut accompagner par de l'enseignement, à l'école, dans les associations, sur le fait qu'à telle étape de vie, souviens-toi, quand tu auras 50 ans, alors quand on vous dit à 16 ans qu'on vous aurez 50 ans, on a tous eu 16 ans, très honnêtement, c'est pas sûr. Le sujet qui vous passionne. Par contre, vous faire une prévention sur le tabagisme et les effets du tabagisme. À 16 ans, ça a du sens. Quand vous commencez à en avoir 40, 45, vous parlez de l'hémocule quand vous aurez 50, ça a du sens. Et tout ça, ça se fait pas ça va pas se faire au coup par coup et parce qu'on a rencontré les bonnes personnes.
Bien sûr.
Et ça doit rentrer dans notre vision culturelle.
Je parlais de ces dépistages organisés. Il y a un autre dépistage qui est important, qui n'est pas organisé, donc pas pris en charge. C'est celui du cancer de la peau, le plus grave, qui est le mélanome. Je voudrais juste qu'on écoute Céline qui témoigne sur France Inter dans le téléphone sonne. Écoutez-la.
J'ai été soignée il y a 11 ans de ça maintenant, d'un mélanome qui a été détecté alors que j'étais à mon 4e mois de grossesse. Et en fait, j'ai un médecin traitant qui m'avait toujours dit « Écoutez, vous avez la peau claire, vous avez une peau à risque, je vous conseille de vous faire suivre régulièrement chaque année. » Et donc j'ai suivi son conseil et effectivement, mon oncologue m'a dit qu'il m'avait très certainement sauvé la vie, évité de graves soucis. Parce qu'un mélanome pendant une grossesse, ça peut être très compliqué.
Ça, c'est un dépistage donc qui n'est pas organisé, mais il faut effectivement voir régulièrement son médecin pour faire ensuite des dépistages selon les risques que l'on a ou les facteurs de risque auxquels on est exposé.
Oui, tout à fait. Et puis là, il y a aussi évidemment des sensibilités personnelles. On parle du cancer du mélanome, le pays où il y a le plus de cancer du mélanome, c'est l'Australie. Du fait tout simplement de l'immigration des populations européennes, notamment du nord de l'Europe, sous un climat qui n'est pas le leur. Donc vous avez forcément plus de risques. Donc eux, ils ont une vraie culture du dépistage. À nous aussi de travailler sur ces aspects-là. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Est-ce que là aussi, on ne peut pas développer des outils? Et ces outils sont évidemment en cours de développement, qui permettent de faire sur l'analyse d'une lésion cutanée, d'évaluer le risque et de dire, là, il faut que vous alliez voir un spécialiste ou là, non, il n'y a pas besoin. En tout cas, c'est une première manière de dépister à l'échelle des populations.
Vous parliez effectivement du tabac tout à l'heure. On sait que ces dépistages sont essentiels, mais bien vivre aussi. On le disait, 40% des cancers sont liés à nos habitudes de vie. Okay. Consommation de tabac, d'alcool, sédentarité, mauvaise alimentation, exposition au soleil sans protection. On peut agir en évitant tous ces facteurs de risque. On peut se protéger soi-même.
Tout à fait. 40% des cancers sont évitables. Ça veut dire que 60% à l'heure actuelle ne le sont pas.
Mais 40%, c'est déjà énorme.
Mais 40%, c'est énorme. Et en effet, sur des habitudes de vie, le tabac en est pour moi l'exemple le plus typique. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui fume qui ne soit pas informée que le tabac entraîne des cancers du poumon. Enfin, là, il faut vraiment vivre dans une bulle,
grotte.
Dans une grotte, quoi. Et du coup, on ne peut pas se fournir en tabac. Mais en pratique, ça n'empêche pas de fumer. Quel est un des cancers qui augmente le plus en France? Le cancer du poumon chez la femme.
Pourquoi? Parce qu'elle s'est mise à fumer.
Parce que la femme s'est mise à fumer. Et on le sait. Et souvent, un discours est de dire « Oui, mais bon, je sais, j'assumerai. » Moi, je peux vous assurer qu'on n'assume rien du tout.
Le jour où ça arrive, on n'assume plus.
On n'assume plus rien du tout. Et ce n'est pas non plus un cancer très sympathique à avoir, si tant est qu'il y ait un cancer sympathique. Voilà. Je rajouterais, mais ça, c'est un autre aspect. Je suis très motivé. Les gens qui travaillent à l'Institut Curie, qui me croisent, savent que je fais la chasse au tabac, que ça pue aussi. Excusez-moi l'expression, c'est que ça pue pour le voisin. Voilà.
Autre cause directe de cancer, là aussi donc évitable, ce sont des virus. C'est le cas du cancer du foie qui est lié à l'hépatite B, au cancer du col de l'utérus, de l'anus, de la gorge qui sont liés au papillomavirus. Et c'est vrai pour les deux sexes. Là aussi, on a des vaccins contre l'hépatite B, contre le papillomavirus, vaccins obligatoires ou recommandés. On en est où, là aussi, en France? On est là aussi mauvais élève?
Alors, on progresse, parce qu'il y a eu une grande campagne, notamment pour cibler les plus jeunes, parce que c'est là où il faut en effet vacciner. Et puis, je rajouterais pour les garçons le cancer de la verge, avec le papillomavirus aussi, qui là n'est pas non plus un cancer très sympathique. Je pense qu'il y a pour le papillomavirus, il y a une prise de conscience. Maintenant, on est dans un moment où tout ce qui s'appelle le vaccin entraîne beaucoup de craintes. On voit même qu'aux États-Unis...
La crise du Covid n'a pas arrangé les choses.
La crise du Covid n'a pas arrangé les choses. La perte de confiance parfois aussi dans des évidences, les comportements même de ministres de la Santé américains montrent que ça peut aller très loin. Mais je pense que ça progresse. Mais on voit là aussi qu'il y a une différence de taux de vaccination selon les milieux sociaux. C'est pas qu'une question je fais ou je fais pas. On est plus vacciné au centre de Paris qu'on va être dans certaines banlieues.
Encore une inégalité.
Tout à fait. C'est un autre marqueur d'inégalité sociale.
Lequel est effectivement important de travailler. Et puis, il y a également des facteurs environnementaux comme l'exposition à l'amiante, au radon, aux pesticides, à la pollution, aux solvants. Et là, c'est évidemment aux autorités de nous protéger. En tout cas, on rappelle qu'en suivant tous ces conseils, on pourrait éviter 40% des cancers. Ça vaut la peine et que la recherche est extraordinaire. Merci infiniment d'être venu nous voir.
Avec plaisir. Merci à vous.
Vous écoutez France Culture.
Ah, les fanfares.
célébration du bonheur d'être ensemble, de parader avec tambours et trompettes. Longtemps jugées ringardes ou guindées, les voilà revigorées et dépoussiérées. Elles ont le vent en poupe.
Les parents avec les enfants ont fait partie des rangs de la banda. Et donc c'est vrai que la musique occupe une grande, grande place dans notre village.
LSD, la série documentaire, Fanfare, une histoire en marche par Jérôme Sandlars. Réalisation Benjamin Hu, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alors, c'est l'histoire de Toto. Toto rentre dans la classe et la maîtresse... Ouais, alors voilà, donc c'est à peu près la seule histoire drôle que j'aurais pu vous raconter parce que le reste est un peu moins drôle. Donc, il fallait que je commence par essayer de vous arracher une sorte de sourire. Pour le reste, ça au moins, c'est factuel. Nous sommes le 16 juin 2025 et même, il s'agit d'un lundi. Pour le reste, l'actualité est assez contrastée. D'ailleurs, vous allez l'entendre. 6h30 sur France Culture. C'est le premier journal, celui de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Quatrième nuit de guerre entre Israël et l'Iran. Israël frappe encore, l'Iran riposte et s'en félicite. Nous irons à Jérusalem où des explosions ont été entendues. Les élèves de terminale passent l'épreuve de philosophie aujourd'hui, avec cette année plus de candidats en situation de handicap.
Après des émeutes racistes en Irlande du Nord, des habitants étrangers envisagent de partir. On y reviendra dans les enjeux internationaux. Ça sera dans 10 minutes.
Les frappes continuent. Israël a dit cette nuit viser des sites de lancement de missiles sol-sol dans le centre de l'Iran, après avoir annoncé hier une attaque sur l'aéroport de la troisième ville du pays et des installations militaires dans l'Ouest. Bilan depuis vendredi, au moins 224 morts en Iran, d'après le ministère de la Santé. 16 côté israélien selon la police et les secours, dont 3 qui viennent d'être recensés ce matin. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a menacé de faire payer à l'Iran un prix très lourd. Quand Téhéran prévient, les abris dans l'État hébreu ne garantiront pas la sécurité. Israël ne sera bientôt plus habitable, affirme l'Iran, qui riposte à Jérusalem où se trouve notre correspondant Thibault Lefebvre. Bonjour.
Bonjour Margot.
Thibault, de fortes détonations ont été entendues cette nuit.
Oui, encore une alerte hein, cette nuit. Il était environ 4h du matin. Les Israéliens qui se précipitent aux abris. Et puis ces explosions lourdes. Les murs du bureau de Radio France à Jérusalem qui tremblent. Les missiles ont frappé à 5 endroits différents. Dans le centre d'Israël, c'est à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest d'ici. 4 morts, plus de 100 blessés, 4 disparus. Selon la Magen David Adom, c'est l'équivalent de la Croix-Rouge. Bilan évidemment évolutif et provisoire. La ville de Petah Tikva, c'est à l'est de Tel Aviv, a été touché, comme le quartier ultra-orthodoxe de Bnei Brak. Les secouristes sont actuellement à pied d'œuvre. Bnei Brak, c'est à peine 8 kilomètres au nord de Bat Yam, où 8 personnes sont mortes dans les mêmes circonstances il y a 24 heures. Alex est un survivant. Son appartement a été soufflé au milieu de la nuit.
At 3 o'clock, the strike happened.
C'était à 3 heures du matin. Il y a eu cette frappe, je dormais. Je me suis réveillé parce qu'un éclat a brisé le verre des fenêtres et est entré. Tout le bâtiment a tremblé. L'explosion a été puissante. L'Iran ne devrait pas frapper Israël. Ce n'était pas dans leur plan. Israël a frappé le premier et maintenant les deux puissances se répondent. Il va y avoir encore plus de dégâts, encore plus de morts. C'est terrible. Cette guerre n'était pas nécessaire.
C'est une parole rare, Margot, dans une population qui vit depuis vendredi matin au rythme des alertes, sous la menace des missiles balistiques iraniens, mais qui soutient pourtant dans sa grande majorité l'action du gouvernement.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Et en pleine escalade au Moyen-Orient commence aujourd'hui le G7 au Canada. Donald Trump est arrivé en Alberta, premier grand sommet pour le président des États-Unis depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier. Emmanuel Macron aussi est sur place après un détour symbolique hier par le Groenland. Ce territoire autonome danois convoité par Donald Trump qui veut l'annexer. Emmanuel Macron a montré sa solidarité et celle de l'Union européenne avec le Groenland. Visite suivie par Louise Baudet.
Il y a l'accueil chaleureux des dizaines de Groenlandais venus le saluer. Et il y a les images fortes d'une mer de glace fissurée, d'icebergs à la dérive, de roches dénudées. L'Arctique fond et devient stratégique, ses terres rares bientôt accessibles et ses nouvelles routes maritimes attisent les appétits. À Donald Trump qui veut annexer le Groenland, Emmanuel Macron réitère son message.
Pour tous les Français, pour tous les Européens, le Groenland n'est ni à vendre ni à prendre.
Not to be taken.
Il y a quelques jours, deux bâtiments de la marine française ont croisé dans le secteur et la France est prête à organiser des exercices conjoints avec les pays de la région, dit Emmanuel Macron. Un discours qui rassure Katrina.
La France est le seul pays européen à avoir l'arme nucléaire, alors je pense que la France pourrait nous protéger.
Venue elle aussi écouter le président français, Neyara se méfie.
Je ne pense pas qu'on doit fermer la porte à la Chine, aux États-Unis, à la Russie. Nous avons besoin de partenariats forts avec le monde entier et cela nous impose d'être diplomates.
L'Union européenne veut justement accélérer son partenariat avec le Groenland sur les métaux stratégiques, annonce Emmanuel Macron, mais d'autres sont sur les rangs, comme un symbole. La compagnie américaine United Airlines a inauguré samedi sa toute nouvelle ligne aérienne, New York-Newark, première du genre.
6h34 sur France Culture, c'est la suite du journal de Margot Delpierre. Dans un contexte géopolitique extrêmement tendu, chaque événement international suscite des questions de sécurité. C'est le cas aussi au Salon du Bourget, près de Paris.
Oui, rendez-vous crucial pour les fabricants d'avions et d'armes qui s'ouvrent aujourd'hui. Plus de 2000 exposants sont attendus, venus de 48 pays, avec des mesures de sécurité donc renforcées sur terre et dans les airs. Guillaume Bourdeloup est le directeur général du Salon.
Le Bourget est classé grand événement à l'image de ce qu'étaient les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc le fait que ce soit un grand événement impose un certain nombre de normes sécuritaires en rapport avec ce salon, qui est porté par le ministère des Armées dans une certaine mesure, au sol également avec des effectifs de sentinelles. On va cribler, quand je dis « on », c'est l'État crible un certain nombre de personnes qui interviennent sur le Salon du Bourget. On met en place évidemment tout un dispositif de caméras pour veiller à la sûreté du salon. Et puis il y a le volet aérien de la protection, qui est celui-là plutôt piloté par l'armée de l'air et de l'espace, avec une base aérienne projetée de 500 aviateurs sur le terrain même du Bourget. Des aéronefs qui sont en vol et en alerte, avec un dispositif permanent de sûreté aérienne qui est mis en place. Et également un dispositif de lutte anti-drone qui a été déjà éprouvé dans le cadre des Jeux Olympiques, donc qui est en place sur l'aéroport du Bourget. Ça, c'est un dispositif interministériel qui met les armées, mais également le ministère de l'Intérieur à l'œuvre sur ce sujet-là.
Le directeur général du Salon du Bourget, Guillaume Bourdeloup, au micro d'Hakim Kasmi. Après le français pour les premières vendredi dernier, place à la philosophie ce matin pour les terminales. Plus de 500 000 candidats sont inscrits à cette épreuve. Plus de 700 000 en tout passent le baccalauréat. Et notons cette année une hausse de 9,5% des candidats en situation de handicap qui bénéficient d'un aménagement. Le ministère de l'Éducation s'en félicite, mais pour l'APF, l'Association des paralysés de France, cela ne doit pas masquer une réalité, celle du décrochage scolaire après le collège. Seulement un tiers des élèves en situation de handicap passent l'examen, faute d'un système scolaire adapté, estime Bénédicte Kell, conseillère éducation.
On le voit, la scolarisation des enfants en situation de handicap reste compliquée. Dès lors qu'il y a en fait une différence entre les attendus de l'éducation nationale en matière de niveau scolaire et les capacités de l'élève. Dès qu'il y a un décrochage à ce niveau-là, on voit bien que pour l'éducation nationale, c'est compliqué d'aménager, d'adapter, etc. Et l'écrémage, il est vraiment là. Je veux dire, au collège, on va maintenir des enfants en scolarité, y compris accompagnés par des dispositifs, des unités localisées pour l'inclusion scolaire, parce que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, on les maintient au collège. Mais ils vont pas arriver jusqu'au lycée. Quand on oblige à une conformité par rapport à des programmes, bah pour certains élèves, effectivement, ça va pas être possible. Il faut pouvoir prévoir des aménagements, des adaptations et prévoir des objectifs d'apprentissage qui soient adaptés. On reste quand même en France, dans plein de rapports sur l'école, etc., sur un système qui est très élitiste. Donc, qu'est-ce qu'on attend de l'école ? Tout enfant est en capacité d'apprendre, ça c'est une certitude, mais à son rythme et avec des objectifs qui peuvent lui être propres. Et ça, le système scolaire, à l'heure actuelle, ne permet pas ce type d'adaptation.
Bénédicte Kell de l'APF. Un grand soleil est attendu presque partout aujourd'hui, avec cet après-midi 25 degrés à Lille, Paris, Lyon et Biarritz, 27 à La Rochelle, 29 degrés à Ajaccio. 6h38 tout de suite, Guillaume Herner, les enjeux internationaux.
Vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez vous donner des bonnes nouvelles, vous aussi, Margot Delpierre. Allez, on va aux enjeux.
Les matins de France Culture. Guillaume Herner.
Et ces enjeux, ils nous conduisent en Irlande depuis une semaine. L'Irlande du Nord est en proie à des émeutes à caractère raciste et xénophobe déclenchées par l'interpellation lundi dernier de deux jeunes Roumains accusés d'avoir tenté de violer une adolescente. Les émeutiers s'en prennent directement au logement et aux personnes jugées d'origine étrangère, tandis que ces dernières tentent de se cacher pour échapper aux violences. Samedi, plus de 60 policiers avaient déjà été blessés. Partie de Ballymena à l'ouest de Belfast, cette vague de violence s'est rapidement propagée à de nombreuses autres villes. Et ce sont les loyalistes qui sont au premier rang. Comment l'immigration est-elle venue alimenter la haine au sein de ce courant politique ? Bonjour Agnès Maillot.
Bonjour.
Vous êtes professeur en études culturelles à Dublin City University, autrice de L'IRA et le conflit nord-irlandais. C'est aux presses universitaires de Caen. Comment ces émeutes ont-elles débuté ?
Alors, comme vous l'avez dit, la raison initiale invoquée par les émeutiers, c'est la tentative de viol d'une jeune fille par deux adolescents qui ont été tout de suite interpellés et qu'on a interviewés à travers un interprète de langue roumaine. Donc ça a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. On a vu des posts apparaître de absolument partout qui racontaient évidemment n'importe quoi. Et c'est en fait cette petite flamme qui tout d'un coup a mis le feu à une situation que personne n'attendait jusque-là. Évidemment, on aurait pu quand même prévoir que n'importe quel petit incident pourrait servir d'étincelle, puisque il y a des discours enflammés sur les réseaux sociaux par certains politiques, représentants politiques, et en particulier le député de cette région qui enflamme la situation en tenant des propos anti-migrants, ouvertement racistes et qui évidemment ne sont fondés sur rien.
Bon, il faut également dire un mot du mode opératoire des émeutiers.
Alors, ce sont des jeunes en général, ce sont des très jeunes.
Très jeunes, c'est-à-dire ?
Oh, ils ont entre eux, enfin, ce sont des adolescents et des jeunes adultes. Ce sont principalement des hommes qui se disent défendre les femmes et les jeunes filles. Or, en fait, on sait aussi qu'il y a en Irlande du Nord depuis des décennies une tradition de ce qu'on appelle les émeutes de loisirs, c'est-à-dire que le moindre incident peut résulter dans des émeutes dans ces quartiers. Et ces émeutes peuvent durer pendant des jours. On l'a vu, par exemple, en 2021, à propos du protocole nord-irlandais qui avait été signé par, à l'époque, Boris Johnson sur le Brexit, qui avait enflammé l'Irlande du Nord pendant 3 semaines. On l'a vu, on le voit régulièrement. Ces émeutes, en anglais, on parle de recreational rioting, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sortent dans ces quartiers et qui lancent des projectiles, qui s'en prennent aux forces de police. Et il y a presque une ambiance, ouais. Évidemment un peu insurrectionnelle, mais il y a presque une ambiance de fête aussi. Il y a des
terrible,
gens qui boivent des coups.
Ouais. Ça doit être particulièrement compliqué de lutter contre cela, parce qu'on a la sensation, mais alors bon, moi je vous dis ça vu de loin, qu'il y a une forme d'éthos de la violence en Irlande du Nord. C'est un territoire souvent en proie à des émeutes.
Alors, c'est un territoire traumatisé par 30 ans de conflit. Donc, même si les jeunes qu'on voit aujourd'hui dans la rue n'ont pas vécu ce conflit, ils sont nés bien après la résolution de ce conflit, ou du moins le processus de paix, on a quand même en Irlande du Nord encore une vraie situation de crise, parce qu'il y a encore des paramilitaires. Même s'ils ne sont plus actifs sur un plan politique, ils sont encore présents dans les quartiers. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis, on a aussi une frustration, comme on l'a partout ailleurs, notamment en Irlande, une frustration par rapport à la situation socio-culturelle de certains quartiers qui se sentent un petit peu laissés pour compte, etc. Donc, en fait, on a deux situations qui se télescopent. On a les manifestations qu'on trouve ailleurs de frustration culturelle, socio-économique, pas de perspective, pas de logement, etc. Et on a l'héritage du conflit qui vient se greffer sur une situation déjà économiquement compliquée.
Oui, donc effectivement, on imagine que tout cela a créé un dangereux mélange. Est-ce qu'il existe encore des groupes paramilitaires en Irlande du Nord ?
Ah mais tout à fait, et surtout du côté loyaliste, aussi du côté républicain, ce sont des groupes qui sont davantage maintenant des milices ou des groupes très localisés qui interviennent sur des questions de deals de drogue ou de violence, de petite délinquance, qui sont souvent connectés ou en lien avec le crime organisé, mais ces groupes paramilitaires existent encore. Alors là, sur les émeutes de Ballymena, on a l'impression que c'est pas tellement des groupes paramilitaires qui sont derrière, c'est surtout une extrême droite qui est très, très bien organisée sur les réseaux sociaux et qui est agissante et qui est capable de mobiliser souvent des jeunes, on le voit aussi en République d'Irlande, sur des incidents très localisés et qui prennent une envergure absolument démesurée, comme ce qu'on a vu à propos de cet incident qui a eu lieu. Donc, les paramilitaires n'ont pas été vraiment présents, mais leur présence est réelle et elle se fait sentir dans ces quartiers. Il y a encore des peintures murales, il y a encore des exactions qui sont commises par ces paramilitaires, comme ils appellent ça, des expéditions punitives. Donc, ils restent quand même, leur présence, leur ombre reste quand même importante dans ces quartiers. Et il faut aussi souligner une certaine déshérence aussi de ces jeunes dans ces quartiers.
D'accord, oui. Donc il y a un cocktail entre, vous dites, des émeutes récréatives,
voilà.
Une déshérence, probablement aussi une culture de la violence. L'immigration, c'est devenu un motif d'émeute récemment, Agnès Maillot ?
Absolument, et ça l'est devenu des deux côtés de la frontière. C'est devenu un vrai sujet qui concerne en fait, alors ce qui est quand même toujours très très important de souligner, c'est qu'en Irlande du Nord, il n'y a pas une immigration qui est très importante. On parle à peu près de 6 ou 7% d'immigrés en Irlande du Nord, dont un certain nombre d'ailleurs de européens qui sont venus au moment de l'élargissement de l'Europe dans les années 2000, au début des années 2000. Donc on parle d'une immigration qui n'est pas très importante. À Ballymena en particulier, on a à peu près 4%, un taux d'immigrés d'environ 4%. Donc en fait, on a aussi l'impression que c'est évidemment un prétexte à cette effusion de racisme qu'on a vu dans les derniers jours et qui est encore une fois attisé par des gens peu scrupuleux qui font circuler des fausses informations qui nourrissent un discours anti-migrant qui devient vraiment véhément des deux côtés de la frontière et contre lequel on a vraiment du mal à lutter parce que c'est en fait assez récent. L'Irlande avait été quand même relativement épargnée par rapport aux autres pays européens. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Irlande du Nord, on a depuis toujours un contexte sectaire, c'est-à-dire que le sectarisme, c'est une
contexte
plaie.
Sectaire, c'est-à-dire un contexte c'est-à-dire identitaire fort ou comment?
Très fort, très fort. C'est le cœur du conflit nord-irlandais. C'est ce conflit identitaire qui au départ concernait des catholiques et des protestants et qu'on appelle sectarisme pour ne pas dire racisme, parce que c'est une forme de racisme. Ça mobilise les mêmes mécanismes, la discrimination, la ségrégation, la haine de l'autre. Sauf que ce contexte sectaire a dominé toute la période du conflit et même le processus de paix, et on n'a pas vraiment regardé ce qu'il y avait derrière tout ça. Et ce qu'il y avait, c'était évidemment un racisme latent qui a toujours été là, mais dont personne s'est occupé, parce que la priorité, c'était d'essayer de régler ce conflit sectaire entre catholiques et protestants. Donc on n'a peut-être pas pris la mesure de l'existence aussi de ce racisme qui se superpose et qui très souvent coïncide avec les quartiers loyalistes. Les républicains, qui sont aussi ségrégés dans leur quartier, n'ont pas cette tendance aux émeutes racistes. Et alors, c'est vraiment quelque chose chez les loyalistes.
Pourquoi s'en prennent-ils aux policiers? Parce qu'il y a eu 60 policiers blessés, je l'ai dit, Agnès Maillot.
Parce que alors c'est très compliqué. La police en Irlande du Nord pendant tout le conflit et jusqu'au début du siècle était une police à vaste majorité protestante. Elle a fait l'objet d'une réforme de fond très réussie d'ailleurs pour essayer d'intégrer plus de catholiques et pour qu'elle soit plus représentative de la police de la population dans son ensemble. Ça a fonctionné, mais il y a encore des sections de la population nord-irlandaise qui regrettent la police précédente qui était beaucoup plus proche d'eux. Et par ailleurs, on sait aussi que les effectifs de la police nord-irlandaise sont inférieurs à ce qu'ils devraient être et qu'ils ne sont pas en mesure de faire des opérations de maintien de l'ordre à l'échelle de ce qu'on leur demande. On l'avait déjà remarqué l'année dernière, quand il y a eu les émeutes en Grande-Bretagne qui se sont exportées en Irlande du Nord. Ils ne sont pas assez nombreux sur le terrain. Là, on a constaté qu'il y en avait plein qui étaient en arrêt maladie. Donc, ce sont des cibles faciles. Mmh. Et évidemment, les émeutiers s'en prennent à la police parce qu'ils sont dans leur quartier. Donc, ils s'en prennent à la police ou à des gens qu'ils considèrent comme des intrus. Ils n'ont plus en face d'eux les jeunes des quartiers républicains, parce qu'eux, ils restent dans leur quartier. C'est plus du tout le même type d'émeute que ce qu'on a vu au début des années 70, au début du conflit, où là, c'était des quartiers qui se battaient entre eux. Là, ce sont des émeutes qui sont intra-quartiers.
Oui, ce sont effectivement des phénomènes inédits. Merci Agnès Maillot. Je rappelle que vous êtes professeure en études culturelles à Dublin City University. Dans quelques instants, avec Science, on va parler des fossiles d'enfants qui nous renseignent sur la lignée humaine.
À quelques jours du 21 juin, nous vous proposons une série sur l'été.
Géraldine Mühlmann.
Pourquoi les grandes vacances d'été marquent-elles tant nos enfances? Pourquoi y a-t-il aussi une touche d'angoisse dans l'été? Est-ce l'anticipation que ça va se terminer? La lumière qui change un peu après le 15 août? Les sécheresses qui sont de plus en plus rudes? Et puis, existe-t-il des lectures d'été? Une belle semaine en perspective, qu'on espère ensoleillée.
Avec Philosophie, du lundi au jeudi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture propose une nouvelle collection de podcasts, Les Aventuriers de l'archéologie. Des découvertes racontées sous forme d'enquêtes par les archéologues qui les ont faites. Un paléopolar.
La première découverte de restes humains vraiment significatifs, elle a lieu en 2007.
Les Aventuriers de l'archéologie, l'énigme d'Ilroud, un si vieux sapiens, par Jean-Jacques Hublin, réalisation Assia Weber, une nouvelle collection de 4 épisodes à découvrir sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
6h52.
6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Alexandra Delbo, welcome.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous.
Ce matin, des fossiles d'enfants nous renseignent sur l'émergence de la lignée humaine.
Oui, et il n'est pas si rare de trouver des fossiles de jeunes, voire de très jeunes représentants de la lignée humaine au sens très large du terme. Par exemple, on a retrouvé de nombreux vestiges d'enfants australopithèques. En revanche, pour les espèces du genre Homo, on en a beaucoup moins. Il faut se poser la question de pourquoi. Pourquoi a-t-on moins de vestiges d'enfants pour certaines espèces et pas pour d'autres? On sait que ces os ne sont pas particulièrement particulièrement plus fragiles. Retrouver uniquement des adultes dans un gisement fossile peut être le signe que les jeunes n'y avaient tout simplement pas accès. C'est une première explication. Ou alors, il y a derrière cela une caractéristique tout à fait humaine. José Braga est paléo-anthropologue et professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse.
Quand on s'amuse à regarder la distribution en âge des enfants, est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils sont plus âgés, et des adultes, même chose, plutôt jeunes ou plutôt âgés, on peut établir une sorte de profil démographique, de profil de mortalité, on va dire, de ces populations. Et pour certaines espèces, on a des trous dans ce profil démographique, c'est-à-dire on a quasiment que des adultes et très très peu d'enfants. Et l'une des pistes, c'est que, eh bien, il y avait peu d'enfants qui mouraient, comme c'est le cas, par exemple, dans notre espèce à nous, heureusement, Sapiens sapiens, parce que notre espèce Sapiens, elle a une caractéristique très importante par rapport aux autres primates, c'est qu'on prend beaucoup soin de nos enfants à partir de la naissance, et donc ils ont tendance à moins mourir que dans d'autres espèces de primates où on prend moins soin de ses enfants, mais on en produit plus. Donc ça, c'est une explication possible. Beaucoup plus d'attention portée aux enfants fait que si on a un profil démographique naturel dans un site archéologique, eh bien on va avoir moins d'enfants, tout simplement parce qu'ils sont moins morts par rapport à d'autres espèces.
Et jusqu'à présent, ces rares fossiles du genre Homo ont été un petit peu négligés. On ne les analysait pas systématiquement en détail, car la communauté scientifique s'est longtemps uniquement concentrée sur les restes ostéologiques adultes. Mais est-ce que les enfants développent des traits propres à l'espèce très tôt dans leur développement ou très tard ? En clair, est-ce que l'on voit dans leurs os les marques de l'espèce, ou perçoit-on une sorte de continuum pour chacun des membres du genre Homo ? C'est dans ce cadre qu'une nouvelle étude parue dans Nature Communication, c'est dans ce chercheur et le co-auteur, s'est penché sur trois fragments de très anciens nourrissons.
Mais alors, où les a-t-on découvert ?
Eh bien, en Afrique, évidemment, le berceau de l'humanité. Mais il y a trois sites distincts et trois fragments. Une mandibule d'Éthiopie, qui est attribuée à un petit Homo habilis. Habilis, c'est la première espèce du genre humain. Erectus, c'est le second membre de la famille humaine. Et c'est à lui, ou à une espèce très proche, qu'ont été attribués les deux fragments restants provenant d'Afrique du Sud. Une mandibule a été retrouvée à Cromdraille et un maxillaire provenant du site de Drimolen. Résultat, les enfants portent très tôt déjà les marques de leurs espèces. Les trois vestiges datent de 2 millions d'années, mais ils sont si différents que cela appelle à repenser l'âge du début de l'humanité.
Pour la mandibule, c'est très intéressant, celle de Cromdraille, parce qu'elle est tellement moderne, c'est-à-dire que quand on la regarde, on ne peut pas la distinguer de la mandibule des petits enfants d'aujourd'hui qui sont des petits sapiens. Et cette petite mandibule de Cromdraille est fondamentalement différente de celle trouvée en Éthiopie il y a maintenant plus de 50 ans. Et alors, ce que l'étude montre, c'est deux choses. C'est que, effectivement, ces différences observées sur les adultes, elles sont confirmées par celles observées sur des nourrissons. Que ces différences sont observées avant 2 millions d'années, puisque le petit erectus que nous avons en Afrique du Sud a clairement plus de 2 millions d'années, puisque les animaux qu'on trouve associés à cette petite mandibule appartiennent à des espèces qui disparaissent après 2 millions d'années. Et puis, ce que ça nous apprend également, c'est que si nous avons affaire à deux espèces d'humains très différentes avant 2 millions d'années, cela veut dire que l'ancêtre de ces deux espèces, qui est aussi un humain, a dû vivre quelques centaines de milliers d'années auparavant.
Si Habilis et Erectus étaient déjà si différents il y a 2 millions d'années, ça veut dire que le premier n'est pas le précurseur du second et qu'un ancêtre commun existe possiblement autour de 3 millions d'années, soit peu après la disparition de Lucie. Et ça signifie également qu'Homo Erectus pourrait être né en Afrique australe et non pas en Afrique de l'Est. Et c'est au conditionnel évidemment, parce qu'il faut encore étayer ce faisceau de preuves. La suite, ce sera donc d'aller chercher dans le registre fossile déjà acquis s'il n'y a pas de reste d'enfants autour de ces 2 millions d'années qui n'auraient pas encore été remarquées.
Merci beaucoup Alexandra Delbo.
6h tout juste 57 sur France Culture, l'heure de votre humeur du jour, Guillaume. Et ce matin, un pas de plus vers le pire.
Et oui, je vais vous raconter des histoires pour vous faire oublier l'histoire. L'histoire avec une grande H, l'histoire qui est en cours. Time is out of joint, comme disait l'autre. Ou bien encore, le pire n'est pas certain, mais le pire se rapproche. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que, pour ainsi dire, nous l'avons vécu ensemble depuis 2015, depuis les attentats, avec tous les drames qui s'en suivirent, depuis le 7 octobre, depuis Gaza et maintenant depuis l'attaque israélienne contre l'Iran. Je me souviens d'un temps béni où nous pouvions, par exemple, évoquer dans la matinale l'abbaye du Bec et Loin, la permaculture. À l'époque, il n'y avait pas de guerre, ou alors on ne le savait pas, ou alors on les avait momentanément oubliés. Et vous, comment faites-vous pour ne pas sombrer face à tant de noirceurs ? En ce moment, je me récite du Aragon, moi, par exemple. Je suis dans une période aragonoise. Je désespérais de mes frères sauvages. Je voyais l'avenir à genoux, la bête triomphante et la pierre sur nous et le feu des soldats portés sur nos rivages. La poésie, c'est un bon échappatoire, mais j'ai une autre méthode et je voulais justement vous la proposer, me raconter des histoires et même plus précisément me raconter une histoire ou des histoires contrefactuelles. Que se serait-il passé si, c'est cela l'histoire contrefactuelle, que se serait-il passé si Rabin ou Sharon étaient encore vivants, si l'Ukraine n'avait pas abandonné son arsenal nucléaire, si le 6 octobre nous étions directement passés au 8, si Joe Biden avait eu 20 ans de moins, que se serait-il passé si des personnages comme Trump et Poutine relevaient eux de la fiction, si le réel n'était pas tragique et si la tragédie relevait de la fiction. L'histoire contrefactuelle, c'est une bonne manière de s'en sortir, d'échapper à cette accumulation de noirceur et pire encore à cette sensation de spirale comme si nous étions aspirés chaque jour vers le noir, vers quelque chose d'un peu plus noir que le précédent, chaque jour qui semble nous rapprocher de l'irrémédiable. J'ai pensé que cela vous aiderait peut-être, cette histoire d'histoire contrefactuelle. Les hommes font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font, et bien surtout, ils peuvent se prendre à rêver d'en faire une autre.
Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Retour vers le réel. Nous allons évoquer, bien sûr, ce conflit entre Israël et l'Iran avec ses différentes attaques et contre-attaques. Nous serons en compagnie d'Éric Biegala, notre camarade journaliste à la rédaction internationale de Radio France, Héloïse Fayet, chercheuse à l'Institut français des relations internationales et spécialiste de la dissuasion nucléaire. En attendant, eh bien, il est 7h sur France Culture. Bon réveil à tous, c'est le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous serons en Iran et en Israël dans ce journal depuis